secrète. Vous êtes nul, mauvais. Alors, je ne sais pas comment vous accueillez ce constat. Peut-être avec un peu de crainte. Il y a eu erreur de casting. Qu'est-ce que c'est que ce pasteur qui se permet de nous parler comme ça au bout d'un mois? Peut-être un peu de peine. Ça fait seulement un mois qu'il est là, il a déjà vu. Il a déjà remarqué. Peut-être de la colère. Si c'est ça, tout ce qu'il a à nous dire au bout d'un mois, il peut revenir de là où il est venu. Peut-être de la curiosité. Qu'est-ce qui va nous sortir? De quoi il va parler? Ou de la fébrilité. C'est une blague, c'est pas possible. On va rire, il va faire une blague. Alors voilà la vérité. Voilà ce qu'on voit quand on n'a pas encore la tête dans le guidon, quand on n'a pas encore exploré les recoins sombres et inévitables de toute vie d'église. En tout cas, voilà ce que moi j'ai vu. Je vois une belle église. Je vois des tas de gens motivés dans le service, des gens qui mettent leur cœur, leur tripe, des gens qui ont vraiment envie de servir le Seigneur, envie de servir leur prochain, des gens qui ont des tas d'idées. Et j'espère que chacun d'entre vous, au-delà peut-être des difficultés que vous observez aussi, des frustrations que vous vivez aussi dans la vie d'église, j'espère que vous voyez aussi la beauté de cette communauté. Alors du coup, pourquoi est-ce que je dis que vous êtes nuls? Eh bien, en fait, c'est pour vous montrer l'importance des mots. L'importance des mots qu'on prononce. Les paroles qu'on dit ont un impact. Je ne sais pas ce que ça a suscité en vous. J'ai entendu quelques rires, peut-être un peu crispés, je ne sais pas. Mais les mots qu'on prononce ont un effet dans la vie de ceux qui les entendent. On le sait bien, par les mots, on peut faire du bien, on peut édifier, on peut encourager, et puis on peut aussi détruire, démolir. Et la parole dans la vie chrétienne, c'est un sujet central. Alors c'est une évidence, hein, la parole, on l'a chanté plein de fois ce matin, la parole de Dieu, évidemment, est centrale dans nos vies, mais notre propre parole est aussi un sujet central. Or, on a tous un problème avec la parole, et en particulier avec la nôtre. On a tous le souvenir de paroles qu'on a prononcées puis qu'on a regrettées. On a tous le souvenir de paroles reçues qui nous ont blessés, parfois durablement. Et ce n'était pas qu'au travail, c'était aussi en famille, c'était aussi à l'église. Nos paroles ont parfois suscité des conflits, des ruptures, elles ont amené des douleurs dans les lieux mêmes qui nous tiennent le plus à cœur. C'est précisément auprès des gens qu'on aime le plus qu'on a aussi les paroles souvent les plus blessantes ou qu'on reçoit les paroles qui nous blessent le plus parce qu'évidemment il y a de l'amour là et que l'amour quand il est bafoué, ça fait mal. Alors on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre à la fois à quel point notre parole est importante. On a besoin de comprendre pourquoi on a tant de difficultés avec la parole. On a besoin de comprendre aussi ce que la venue de Jésus sur terre nous dit au sujet de la parole, y compris de notre parole. Et enfin, on a besoin de comprendre qu'est-ce que nous sommes appelés à faire de cette parole dont le Seigneur nous a pourvus. Et c'est pour ça que la prédication de ce matin, c'est en fait la première d'une série de quatre que je vais donner sur le thème « Parole de Dieu, parole des hommes ». Et cette première prédication, je l'ai intitulée « L'art de la parole », tout simplement. Je le dis aussi pour ceux qui mettent ça sur Internet. « L'art de la parole », notez, c'est ça le titre. On m'a demandé le titre. Et pour ça, on va commencer à aller dans le livre de la Genèse. Au premier chapitre, facile, premier livre de la Bible, premier chapitre, et je vais lire les premiers versets. qui nous disent ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit, et on pourrait continuer comme ça, on pourrait poursuivre la lecture de ce chapitre, et on ferait ce constat, Dieu amène à l'existence par sa parole ce qui n'existait pas. Dieu dit, et la chose est. Alors, essayez l'expérience, entrez chez vous dans une pièce obscure, fermez la porte, et alors que vous êtes dans le noir complet, essayez. Que la lumière soit. Alors je sais qu'il y en a, enfin je ne sais pas s'il y en a ici, mais il y a des gens qui habitent dans une maison connectée, puis ils ricanent parce qu'ils arrivent, ils disent « lumière », et hop, ça s'allume. Très bien, alors on va tenter autre chose. Sortez dans votre jardin, allez vers ce bout de terrain où rien n'arrive à pousser, cet endroit où vous dites « il n'y a rien là, il n'y a que des pierres, on ne peut rien y faire pousser », puis dites « que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. » Mais vous ne plantez rien, hein, vous vous contentez de dire ça. Alors, si ça marchait, ça ferait le bonheur des agriculteurs, mais la vérité, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et quand bien même vous parviendriez, tels les mages du Pharaon, à imiter quelque peu cette œuvre créatrice, vous atteindriez aussi bien vite vos limites. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Alors, on a un célèbre astronaute, Thomas Pesquet, qui a vu les étoiles de plus près, qui a fait de superbes photos. Si vous ne les avez pas vues, allez sur Facebook. Il a un compte Facebook qui est incroyable, qui est très beau. Une photo de profil comme personne d'autre n'en a une sur cette planète. Mais aussi spectaculaire qu'ait pu être son aventure dans la Station Spatiale Internationale, eh bien, il n'en est pas moins demeuré, lui, qu'un tout petit être au milieu de l'immensité de la création. Et tout cela, le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve, Dieu l'a créé à partir de rien par sa parole. La parole de Dieu est créatrice. Elle a cette capacité de faire venir à l'existence ce qui n'existait pas. Et ça nous dit quelque chose de l'autorité de la parole de Dieu. L'autorité de la parole de Dieu est à ce point-là d'absolu. Dieu dit et la chose est. Elle vient à l'existence. Et c'est pour ça, par exemple, évidemment, que Jésus peut calmer la tempête. Quand on regarde ça depuis notre posture d'être humain, je dirais. On se dit, waouh, comme les disciples, mais qui c'est cet homme qui a pouvoir sur les éléments? Mais quand on sait qui il est, on se dit, bah, évidemment qu'il a tout pouvoir sur les éléments. Il a créé le ciel et la terre. Sa parole a ce pouvoir-là. C'est aussi pour ça que quand il dit à Lévi, le collecteur d'impôts, toi, suis-moi, l'autre laisse tout en plan, à l'instant, pour suivre instantanément ce drôle de personnage qui, par sa parole, guérit les malades, purifie les lépreux, ressuscite les morts. La parole de Dieu, ce n'est pas une parole avec laquelle on tergiverse. Jésus dit « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. » Quand Dieu appelle, et en fait aujourd'hui il appelle, c'est avec cette même parole d'autorité que celle qui a créé le ciel et la terre. Quand Dieu nous parle, c'est avec cette même autorité. Et c'est pour ça qu'il nous dit, par exemple, en Hébreux 3:7, qui reprend un psaume, le psaume 95, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Ce qui est incroyable, c'est qu'on puisse endurcir nos cœurs face à l'autorité de cette parole qui nous appelle, mais apparemment c'est possible, et il nous dit « n'endurcissez pas vos cœurs ». Le Seigneur appelle, maintenant il appelle, tout de suite. Je ne sais pas qui, je ne vais pas faire le prophète, mais toi qui l'appelles, tu le sais. Tu le sais bien qu'il t'appelle. Et c'est maintenant que ça se passe. Alors, réponds. Réponds maintenant à cet appel de Dieu, cet appel qu'il pose sur ta vie, et manifeste cette réponse. À la fin du culte, va voir un frère, une sœur, et dis-lui, « Le Seigneur m'a appelé, j'ai répondu, je veux répondre. » Dis-le-lui. En regard à cette parole d'autorité de Dieu, eh bien, il y a la parole humaine, notre parole. Et notre parole n'est pas première, elle arrive en second. Dieu a toujours l'initiative, c'est lui qui nous a aimés le premier. Mais vous aurez remarqué que nous avons, nous aussi, une parole qui est d'une autre nature que celle de Dieu. Notre parole n'est pas créatrice, ce qui ne veut pas dire qu'elle est sans importance. En fait, notre parole est essentielle. Et c'est ce qu'on va voir en lisant Genèse 2, les versets 18 à 24, où on voit apparaître la parole de l'être humain. Genèse 2, versets 18 à 24. Le Seigneur dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. » Le Seigneur Dieu façonna de la terre tous les animaux de la campagne et tous les oiseaux du ciel. Il les amena vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom dont l'homme l'appellerait. L'homme appela de leur nom toutes les bêtes, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la campagne. Mais pour un homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » La première caractéristique de cette parole humaine, c'est que c'est une parole qui a besoin d'altérité. Je vais expliquer ces mots-là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, nous dit ce texte. Plus précisément, il nous est dit qu'il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Si vous voulez savoir pourquoi je dis être humain plutôt que homme, si vous avez cette curiosité et que vous êtes sur Internet, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube. Je fais un placement de produits en passant. Je décortique sur une vidéo les termes traduits ici par homme et femme. Mais ce qu'il faut retenir tout de suite, c'est que ça nous concerne tous, hommes comme femmes, nous sommes tous concernés par ça. Chacun d'entre nous, on a un besoin ontologique, c'est-à-dire un besoin qui est propre à notre nature. Nous, on a été créés comme ça. On a besoin d'être en relation avec les autres. C'est un besoin. Mais c'est qui l'autre ? Eh bien, c'est cet être qui nous est semblable et qui, en même temps, nous fait face. L'homme et la femme sont à la fois semblables. C'est l'os de mes os, la chair de ma chair. En effet, pareil. Et en même temps, ils sont un vis-à-vis l'un pour l'autre. L'homme est un homme, la femme est une femme, ils ne se confondent pas, ils ne sont pas interchangeables. Et pour le dire en passant, les idéologies qui aujourd'hui tentent de diluer ça amènent en fait une confusion qui fait beaucoup de dégâts. L'altérité, c'est comme ça que ça s'appelle, le fait d'être en relation avec l'autre, c'est une richesse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même qui le dit quand il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme a besoin d'un autre. » Et quand il dit cela, eh bien, il le dit avec la même autorité que celle avec laquelle il a créé le ciel et la terre. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Eh bien parce qu'il me semble que dans notre expérience quotidienne, en tout cas dans la mienne, Cette altérité, elle n'est pas facile à vivre. Vivre avec l'autre, c'est pas facile. Et que dans cette difficulté-là, on peut perdre de vue que c'est une bénédiction. On peut perdre de vue que cet autre qui m'enquiquine, qui ne pense pas comme moi, qui a des raisonnements différents, qui fonctionne autrement, dont les attitudes me mettent à l'épreuve, Dieu dit de cet autre-là qu'il est une aide pour moi, qu'il est une richesse, qu'il est une bénédiction et qu'il est même une nécessité. Alors, ma parole est sans doute très intéressante. Je la pense probablement plus intéressante que celle de cet autre que Dieu a mis à mes côtés. Et pourtant, sans lui, ma parole est incomplète. La parole humaine, donc, a besoin d'altérité. Et la parole humaine, c'est également une parole de responsabilité. C'est la deuxième caractéristique, je dirais, qu'on va observer maintenant. Notre parole est une parole de responsabilité. L'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce que ça peut signifier. Qu'est-ce que ça veut dire, être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ? Et sans doute, du fait de la nature même de Dieu, qui est bien plus grand que ce que notre petite tête peut comprendre, on n'est probablement pas à la veille de saisir ce que ça veut dire très exactement. Mais dans le cas qui nous occupe, on peut au moins constater qu'on a une parole, nous. On a une parole, et Dieu nous invite à l'utiliser. Et notamment, on l'a vu, Dieu donne à Adam la responsabilité de nommer les animaux. Ça, c'est une chèvre. Ça, c'est un dromadaire. Et ça, un hérisson. Et ça, c'est un gros nul. Eh ben non. Ça, ça marche pas. Ça, j'ai pas le droit. Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit ? Parce que ce n'est pas une petite responsabilité de nommer le réel. Par le nom, par la manière dont nous qualifions les autres, on a un impact sur le réel. On n'est pas Dieu pour créer quelque chose à partir de rien, mais peut-être parce que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance, notre parole a quand même un impact sur le réel, sur le créé. Et là, en l'occurrence, quand nous qualifions les autres, on a un impact sur leur identité. Nous les nommons. Et laissez-moi vous dire qu'on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Et l'homme Adam ne s'y est pas trompé. Quand il voit la femme pour la première fois, il dit « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. » Et en hébreu, ça donne « On l'appellera Isha, car c'est de l'Ish qu'elle a été prise. » On voit une consonance ici qui n'apparaît pas en français, homme-femme, ça ne se ressemble pas, mais il y a une consonance en hébreu, Ish et Isha. Et avec cette consonance, il affirme qu'elle lui est semblable, elle est de même nature que lui, la manière dont il la qualifie fait écho à ce qu'il est lui-même, Ish et Isha. En même temps, il affirme qu'elle est différente, Isha c'est de même nature que Ish, mais ce n'est pas un autre Ish, c'est Isha. Et finalement, cette consonance des termes affirme également la relation. Genèse 5:2 dit que Dieu créa l'Adam mâle et femelle, Zakar et Nekeva. C'est une description physique, à tel point que ça veut dire le pointu et la percée. Je ne vais pas vous faire un dessin, c'est très clair. Mais ici, ce n'est pas une description physique, c'est une description relationnelle. C'est l'époux qui rencontre l'épouse. Il rencontre son vis-à-vis. Elle est la chair de ma chair, l'os de mes os. Et avec elle, il peut parler. Avec les animaux, ça ne marche pas bien. Mais elle, c'est un vis-à-vis. Et donc, la façon dont il la qualifie est tout à fait juste quant à son identité. Et ça, c'est la responsabilité que Dieu nous donne, à nous. Donne à notre parole. Avoir une parole juste, les uns vis-à-vis des autres. C'est-à-dire une parole qui est conforme à la sienne. Et donc, quand votre pasteur, votre patron, votre conjoint ou qui que ce soit d'autre vous enferme par un mot dans une identité qui est fausse, t'es nul, t'as vraiment de main gauche, toi tu seras médecin, toutes ces choses-là, Eh bien, votre travail, notre travail, c'est de refuser cette parole. C'est de lui interdire toute emprise sur notre vie. Alors, pour être sûr de laisser votre âme bien propre, je vais le faire maintenant, parce que j'ai prononcé une parole et que c'était une parole fausse. Seigneur, nous affirmons avec toi que cette parole prononcée en début de culte n'a aucun droit sur nos vies. Si quelqu'un l'a laissé pénétrer, Seigneur, nous la brisons maintenant au nom de ton Fils Jésus, parce que toi tu dis de chacun de nous que nous sommes une créature merveilleuse, parce que toi tu as promis de répandre les dons de ton esprit dans ton Église. Et donc nous affirmons avec toi que nous sommes doués. Voilà la parole de vérité que nous proclamons. Amen. Dieu a une parole qui fait autorité et nous avons une parole de responsabilité. Et quand l'un et l'autre se rencontrent, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne une relation d'intimité. Genèse 2, 25, que je n'ai pas sous les yeux et que je vais chercher, nous dit « Ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. » L'homme et la femme étaient tous les deux nus. Ils n'en avaient pas honte. L'homme et la femme sont nus l'un devant l'autre. Alors, physiquement, bien sûr, d'accord, mais pas seulement. Ils sont nus, ils ont leur âme à nu l'un devant l'autre. Parce que si nos paroles sont justes, et c'était le cas à ce moment-là en Éden, on est avant la chute, si nos paroles sont absolument conformes à ce que Dieu lui-même dit, si elles sont dépourvues de tout péché, alors nous pouvons vivre nus les uns devant les autres. Nous n'avons rien à craindre les uns des autres. Nous n'avons rien à cacher les uns aux autres. Et nous n'avons également rien à craindre de Dieu et rien à lui cacher à lui. Nous l'accueillons en ami. Et on voit ça en Genèse 3, verset 8, quand il nous est dit de l'homme et de la femme qu'ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. C'est pas beau ça ? Ils sont dans le jardin et Dieu est là, dans la brise du soir. Et il se promène, il vient à leur rencontre, il vient pour leur parler, il vient pour vivre avec eux cette proximité, il les cherche. Hélas, mille fois hélas, les choses vont mal tourner dans ce chapitre 3. Mais ça, ça sera pour une autre prédication. Pour aujourd'hui, je vous propose de retenir ceci. Parce que la parole de Dieu a toute autorité, que je mesure de ma parole la responsabilité, que je bénisse les autres, ceux qui de moi diffèrent, que j'aime et supporte celui qui m'est contraire, parce que Dieu dit de lui qu'il m'est une aide, un vis-à-vis, et qu'à travers cet autre, c'est Dieu lui-même qui me bénit. Je vais prier. Seigneur, nous voulons d'abord te rendre grâce pour ta parole. Nous voulons aussi te rendre grâce pour la parole que tu nous as donnée à chacun d'entre nous et pour la responsabilité que tu nous donnes et qui est un honneur, eh bien d'en faire un usage juste les uns vis-à-vis des autres. Nous voulons aussi te rendre grâce pour les autres, précisément, ceux qui ne sont pas comme nous, ceux qui pensent différemment, qui sont aussi tes créatures et parfois même tes enfants, en tout cas ici, dans l'Église, Seigneur. Nous sommes réunis en frères et sœurs et nous voulons proclamer avec toi que cet autre est une bénédiction. Cet autre qui pense autrement, qui m'irrite parfois par ses attitudes, cet autre que je ne comprends pas. Seigneur, tu dis de lui qu'il est une bénédiction. Tu dis que j'ai besoin de lui. Peut-être parce que, oui, il est mon vis-à-vis. Il me fait miroir quand je ne vois pas en moi mes propres paroles mauvaises, peut-être, mes propres défauts. Il est là pour m'arrêter dans ma course vers la perdition, vers le péché, Seigneur. Il est là pour me remettre en cause, pour me remettre sur un chemin droit. Et même si c'est douloureux, Seigneur, nous voulons entendre cette parole de l'autre. Seigneur, je veux te remettre notre parole ce matin, nos paroles, parce que nous savons aussi que nous ne vivons pas en Éden, que notre parole est souvent entachée de péché. Seigneur, aide-nous à garder une parole juste. Aide-nous à être attentifs à ce que notre bouche dit, à ce que nous disons les uns des autres, en face et puis aussi derrière eux. Que notre parole soit empreinte de ta parole, qu'elle dise ce que toi tu dis, qu'elle affirme ce que toi tu dis. Au nom de Jésus. Amen.
J'invite l'équipe de louanges à me rejoindre. Nous allons continuer à proclamer notre Dieu par le chant « Dieu est puissant ». Que nous puissions chanter ceci de notre cœur débordant. « Dieu est puissant ». Levons-nous.
En nous, il
Asseoir. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Gardons ces paroles dans nos cœurs. Et je nous invite maintenant à écouter la séquence annonce. C'est Catherine qui va venir devant. Et le temps qu'elle vienne, j'aimerais qu'on applaudisse ceux qui travaillent aux annonces chaque semaine.
Merci à tous. Bonjour à tous. Donc, deux annonces principales pour ce matin. Bien sûr, l'ensemble des annonces vous sera communiqué par mail. Donc, pour faire suite au culte de dimanche dernier, où l'on a parlé des missionnaires soutenus par notre fédération d'église, et on a présenté aussi les sujets de prière les concernant, nous vous invitons à prendre un exemplaire du journal Info, donc, qui est disponible à la sortie de l'église, qui est édité par la fédération, via la commission missionnaire. Donc le thème est « Les enfants, quels risques ?» et vous y trouverez des articles de fond sur le sujet et aussi les nouvelles des quatre couples missionnaires dont on a parlé la semaine dernière et que nous soutenons. Donc samedi prochain, le samedi 11 décembre, sera la journée du marché de Noël de l'Église, donc 10h, de 10h à 16h ici. Des invitations sont normalement disponibles. Oui, Virginie confirme. Donc, vous pourrez aussi en prendre et distribuer autour de vous, à votre entourage, pour faire connaître à la fois la date et cet événement. Donc, les confitures et sablés, petits gâteaux et autres friandises sont attendus. Vous pouvez amener vos productions jusqu'à vendredi au plus tard. Mais pour information, donc, toute la journée de vendredi, l'église sera ouverte et donc toute personne pourra venir déposer tout au long de la journée. Les sachets et étiquettes donc, sont toujours à demander auprès de Manu, Pascal et Virginie. Donc, pour cette occasion, la salle de culte doit être aménagée aujourd'hui. Donc, il faudra ranger les chaises, descendre tout le matériel qui est en haut dans la mezzanine. Donc, nous remercions déjà toutes les bonnes volontés qui voudront bien apporter leur aide tout de suite à la fin du culte. Voilà. Merci.
Bon, comme j'ai bien écouté Laurent, je partage ma parole avec une alter ego, celle qui partage ma vie, qui maintenant va prendre la parole. Mais d'abord les jeunes avant elle, paraît-il. Donc les jeunes, je crois que c'est Marquis, Léa.
Bonjour. Alors du coup, on vient pour vous parler du quiz Bib et donc pour vous présenter les équipes qui sont, ça y est, constituées. Donc, est-ce que du coup, parce que je ne connais pas les équipes partout, en fait. Ouais. Vas-y, commence.
Alors, est-ce qu'on peut mettre la diapo ? Donc, 6 équipes de 5 personnes vont s'affronter. Donc, de la première équipe, nous avons la team Albatros, qui est composée de Théo. Vous pouvez l'applaudir. Salomé, Eben, Michael et Coralie.
Donc après, on a la première équipe du groupe de jeunes. Et donc dedans, il y aura Elodie, Chloé, Maëlys, Sloane et Valentin. Du coup, la deuxième équipe du groupe de jeunes avec Marquis, Coraline, Michael, moi-même et Azenor.
Ensuite, nous avons la team numéro 2 dans l'assemblée avec Fanchon, Manu, Valérie, Anna et Pascal.
Ensuite, on a l'équipe 3 avec Yves, Jean-Noël, Véronique, Chantal et Véronique. Et la dernière équipe, du coup, avec David, Greg, Thierry, Eric et Coralie.
Nous remercions tout le monde de participer. On vous attend nombreux pour le quiz BIM. Il y a d'autres choses ? Non, il n'y a pas d'autres choses. On va laisser la place à Sandra qui vous expliquera la suite.
Alors, je voulais tout d'abord dire merci à tous ceux qui ont relevé ce défi. Ça m'a profondément émue parce que quand on a commencé à préparer ce projet avec les jeunes au printemps, j'avais prié pour ça et voilà, j'avais prié si 2 ou 3 équipes pouvaient être formées, ça serait formidable. Et en fait, j'avais prié petit. Le Seigneur a répondu grand. Donc, merci à vous. Et du coup, maintenant, je veux voir encore plus grand puisqu'il y a 30 personnes qui se sont levées pour mémoriser la parole. Je me dis que nous tous, qui ne nous sommes pas inscrits pour participer au quiz, on peut aussi les soutenir, les encourager et puis glorifier notre Dieu en apprenant avec eux sans avoir à concourir, simplement pour les soutenir. Qu'est-ce que je voulais dire ? En plus de ces personnes qui vont participer au quiz biblique, on va avoir besoin de coachs. Chaque personne aura son coach. On va créer des binômes. Le coach sera là pour, bien sûr, prier et encourager son partenaire, mais aussi pour organiser chaque semaine des rencontres, alors via Teams, Zoom, on sait bien faire maintenant, pour le faire réciter, pour, dans l'ordre, dans le désordre, pour lui donner des objectifs pour la semaine suivante, pour lui poser des questions, pour le préparer au quiz biblique. Donc tous ceux qui ont envie d'accompagner une de ces personnes qui a été présentée, je vous encourage à venir à la fin du culte, voir les responsables du groupe de jeunes, soit moi-même, pour dire, ben voilà, j'aimerais bien coacher telle personne, l'accompagner pendant ce défi. Alors, il est temps de révéler le livre. Je crois qu'il y en a qui attendent ça avec, avec impatience. Donc, le livre qui a été choisi, c'est le livre de Jacques. Donc, Anna a déjà pris de l'avance, puisqu'elle a décidé il y a quelques semaines de le mémoriser. Par contre, ce qui va être difficile pour elle, c'est qu'il y a une version qui est imposée, et je crois qu'elle n'a pas appris dans la bonne version. Alors, pourquoi une version imposée ? Parce que ces quiz bibliques qui existent depuis des années sont toutes construites à partir de la version NEG, la nouvelle édition de Genève. Ce n'est pas la version la plus facile, mais ça serait trop compliqué de refaire toutes les questions et toutes les réponses, et on risquerait de créer en plus des boulettes dans le quiz. Donc, tout le monde apprend la même version. C'est la version nouvelle, comment c'est ? Nouvelle édition de Genève, c'est ça ? Voilà, la version NEG. Donc, cette semaine, les équipes, vous répartissez les chapitres. Chaque équipe se répartit les 5 chapitres. Et la semaine prochaine, je distribuerai à chacun un petit flyer plastifié. Comme ça, vous pourrez l'amener avec vous partout, pour le mémoriser dans le bus, dans la voiture, sous la douche même. Marquis paraît qu'il fait ça. Donc, et puis, je laisserai aussi sur la table du fond, pour tous les autres qui ont envie de mémoriser, des flyers et vous pourrez choisir votre chapitre et l'apprendre pour encourager les équipes. Et puis j'enverrai aussi un mail à toutes les équipes avec les formalités, les questions types qui peuvent tomber, comment apprendre, des petits conseils. Voilà. Donc ça sera assez long, le mail assez dense, mais prenez le temps de lire du début jusqu'à la fin, ça pourra vous aider dans la mémorisation et la suite. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Une dernière chose, oui, sur le livre de Jacques. C'est un de mes livres préférés du Nouveau Testament. C'est pour ça que je l'ai choisi. Parce qu'il nous encourage à une consécration totale au Seigneur et d'une façon très concrète dans les épreuves, dans l'obéissance à la parole, dans les choix, dans nos paroles aussi. Donc voilà, je pense que ça va nous porter. Et puis, début janvier... Laurent fera une série sur Jacques pour nous aider à mieux comprendre ce livre. Voilà.
Pardon ?
La date du quiz, le 26 mars. Alors, il y a les équipes qui concourent qui seront là, mais on vous attend tous pour les encourager. Ça sera une journée un peu festive, le 26 mars. Merci Fabienne.
Avant de finir par le chant et le moment de bénédiction, nous avons 2 minutes pour laisser la parole à ceux qui nous visitent. Si vous voulez simplement vous lever et nous donner votre prénom et d'où vous venez, on pourra mieux vous accueillir. Y a-t-il des visiteurs ? Bienvenue.
C'est la deuxième visite. On est venu cet été avec deux sœurs de nos voisins parce que notre église était fermée durant le été. Et j'avais vraiment apprécié le
culte. Bienvenue. Profitez de la communion fraternelle. Bienvenue, et la neige est là. Merci. Nous allons nous lever tous ensemble pour glorifier à nouveau et encore notre Dieu en disant combien il est grand, il est infiniment grand. Et Laurent nous accompagnera pour les derniers mots de ce culte. Infiniment grand.
Quand je songe que tu m'as fait. t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
À rester debout pour la bénédiction finale. Le psaume 119, les versets 9 à 16, nous disent « Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En observant ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre dans mon cœur ce que tu as dit, pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Seigneur, apprends-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les règles de ta bouche. Je suis content de suivre tes préceptes, comme si je possédais toute richesse. Je médite tes directives, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. » Alors, frères et sœurs, que la parole de Dieu accompagne votre vie et que votre propre parole soit juste parmi les hommes. Amen. Bon dimanche à chacun et merci à tous.